Gova jeta un œil par la fenêtre. L'aube commençait à éclairer la ligne d'horizon, couvrant d'or les douces ondulations du pays de Caux. Le plateau se réveillait, calme et apaisé, sans se soucier de la mer qui, année après année, lui grignotait les doigts de pied. Dans l'allée de gravier, il vit passer Lefèvre, déjà réveillé, portant un tablier taché et dans chaque main une oie décapitée. Il toussa, tira le rideau et se tourna vers sa femme. Élever ainsi la voix, lui tenir tête, l'avait excité. Il ressentait un début d'érection. Même si le prof de maths en retraite n'osa pas baisser les yeux pour estimer, au degré près, l'angle de l'inclinaison. L'essentiel résidait dans le constat. La stimulation. Quelques gouttes rouges, plus efficaces que quelques pilules bleues. « Écoute, Diane, » conclut-il pour trouver un terrain d'entente, « il n'y a qu'une solution. On enquête discrètement toute la journée, on se renseigne, on recherche quelques indices. » De mon côté, je tente de trouver un outil, et si ce soir la mystérieuse Madame Lefèvre n'est pas réapparue, j'ouvre cette armoire. Diane Perle baissa les yeux en signe de capitulation, murmurant des mots incompréhensibles qui signifiaient sans doute que demain soir, elle serait peut-être déjà morte. Gauvin avança d'un pas, glissa une main sous sa nuisette. Après tout, si cette aube était leur dernière... Arrête ! Fit-elle en sautant du lit avec une énergie retrouvée. « On a une enquête à mener. Habille-toi, mon Hercule !» Elle posa un dernier regard amusé sur l'anatomie de son mari. « Mon Hercule Poirot !» Comme prévu, Diane Perle et Gauvin passèrent la journée à enquêter. Leur objectif essentiel restait de trouver une trace de Madame Lefèvre. Main dans la main, ils se promenèrent autour du colombier, se penchèrent au-dessus du puits, se perdirent dans le verger. Monsieur Lefèvre ne leur posait aucune question. Il n'avait pas bougé depuis le début de la journée, occupé à consolider au mortier le mur de briques d'un des baraquements. « Il va la couler dans le ciment, » glissa Diane Perle à l'oreille de son mari. « Il le fera dès qu'on aura quitté les lieux. » Et elle se colla contre lui. Incontestablement, la situation avait du bon. Même si Gauvin avait renoncé à l'idée d'entraîner sa femme derrière le colombier ou le plus large des pommiers. « Regarde !» fit soudain Diane Perle. « Regarde le linge !»« Quoi le linge ?»« Il est resté sur le fil depuis que nous sommes arrivés. Personne ne l'a décroché. Si Madame Lefèvre partait tôt et revenait tard, comme son mari nous le dit, elle décrocherait tout de même le linge. Ce manoir est impeccablement tenu. Pourquoi serait-elle aussi négligente sur ce point ?» Ils poussèrent leurs inspections, enlacés, pas pressés. « La boîte aux lettres, Gauvin, observe !» Elle déborde de prospectus et de courriers. Ils continuèrent, bras dessus bras dessous. Lefèvre coulait toujours son ciment, leur adressait un sourire de temps en temps. Avec précaution, faisant mine d'admirer les parterres de fleurs, ils tournèrent derrière la grange et marchèrent jusqu'au garage, un bâtiment de briques situé tout au bout du domaine. Sous le toit de tôle, garé à côté d'un 4x4 noir aux imposants pare-buffles dont Gauvin ignorait jusqu'à l'existence de la marque et du logo, un ours toute griffe dehors surmonté d'une couronne, ils découvrirent une Twingo vert pomme. « La voiture de sa femme !» triompha Diane Perle. « Si tu pensais encore qu'elle allait tous les jours visiter sa grand-tante malade, tu as ta réponse. Elle n'a jamais quitté le manoir !» Gauvin ne répondit rien. Il avança dans la grange, évitant de renverser le bric-à-brac d'objets entassés, des pneus, des outils de jardinage, des sacs de terre, des planches de bois et des barres de fer. Un à un, il ouvrit les tiroirs du grand établi. « Fais attention, mon Gauvinet !» glissa Diane Perle en faisant le guet. Elle le trouva beau ainsi, si droit, si maladroit. Un homme de caractère à sa manière, un homme de conviction à sa façon. Quand il revint auprès d'elle quelques secondes plus tard, tenant sous son manteau un pied de biche, elle regretta presque qu'il ne lui propose pas un nouveau jeu coquin. Pas cette fois. On va en avoir le cœur net, se contenta-t-il d'affirmer avec une soudaine détermination. Ils se retrouvèrent à nouveau dans la cour. Ils ralentirent presque aussitôt. Lefèvre s'avançait vers eux, t-shirt moulant, muscles saillants et yeux plissés, façon Charles Bronson, peut-être à cause du soleil qui leur plantait ses rayons dans le dos, peut-être à cause du maillet de fer qu'il tenait à deux mains collé à son torse. Celui avec lequel il écrasait briques, silex et ciment depuis le début de la matinée. Gauvin serra le pied de biche sous son manteau. Diane Perle tremblait. Lefèvre s'arrêta à quelques mètres d'eux, visage crispé, comme s'il avait perdu toute politesse. Comme si avec les briques et le silex, c'est aussi le vernis qui l'avait fait craquer. Vous n'allez pas vous promener aujourd'hui ? Gauvin fit un pas en avant et se plaça entre Diane Perle et l'homme au marteau. Elle trouva cela incroyablement chevaleresque. À son tour de le protéger, son Gauvinet. « Non ? » fit-elle, en faisant papillonner ses paupières mauves. « Nous sommes un peu fatigués. La grimpette dans les valeuses hier nous a achevés. Et votre domaine est si joli, autant en profiter. »
« Ouais, c'est surtout du boulot à entretenir. Des fois, ça donne envie de tout laisser tomber. »
Il joua avec la barre de fer sous leur nez, comme une majorette l'aurait fait avec sa baguette. Ni Gauvin ni Diane Perle n'osèrent lui poser la moindre question sur sa femme. Chaque moulinet de la masse semblait signifier « Tu parles d'elle, je te fracasse le crâne ». Sauf que l'un et l'autre se rendaient compte que c'était la première fois qu'ils le croisaient sans lui parler de Madame Lefèvre, et que rien ne pouvait paraître plus louche que ce silence. Ils restèrent là une éternité, n'osant pas lui tourner le dos. Leur hôte, visiblement, attendait que les clients alimentent la conversation, puis comme cela ne venait pas, il s'éloigna le premier sans abandonner son air renfrogné. Une fois remonté dans la chambre, Gauvin lança le pied de biche sur le lit. « Réfléchissons encore. » Il embrassa tendrement sa femme. « Je ne vais pas te le cacher, ma Diane. Je ne fais pas le poids face à cette brute. » On devrait peut-être tout simplement foutre le camp et oublier tout ça.
Et vivre avec ce poids sur la conscience ? Impossible !
Elle observa la barre de fer noire et courbe perdue sous les plis de la couette couleur paille, tel un serpent dont le sable ne supporterait pas le poids.
Ouvre-moi cette armoire, Gauvin, qu'on en finisse.
Une minute, ma chérie. Je sais que tu détestes quand je raisonne comme un prof de maths cartésien, mais c'est parfois nécessaire. Si j'ouvre cette armoire avec ce pied de biche, nous nous retrouverons avec deux possibilités.
Seulement deux, et aucune ne me plaît.
Soit elle ne contient pas de cadavre, et alors nous avons saccagé pour rien l'armoire normande de cette pauvre Madame Lefèvre, soit elle contient bel et bien un corps décomposé, et dans ce cas, nous nous retrouverons témoins du crime d'un psychopathe avec qui nous devrons rester seuls, de très longues minutes, le temps que les flics se pointent.
Diane Perle renifla. L'odeur de puanteur était plus forte que jamais.
« Tu n'es qu'un lâche » explosa-t-elle soudain. Et elle se mit à vider tous les tiroirs de la chambre, ceux de la kitchenette, de la salle de bain, de la commode. Elle attrapa un chiffon et le passa sur chaque meuble, dans chaque recoin, cherchant le moindre indice d'un crime commis ici.
Gauvin la regardait stupéfait, sursautant au moindre bruit.
« Aide-moi, trouillard !» ordonna-t-elle sans baisser la voix cette fois.
Elle voulait pousser le matelas, bien qu'il soit encastré dans le baldaquin. À deux, unissant leurs efforts, ils parvinrent au bout de quelques minutes à le faire basculer sur le côté. Ils restèrent figés. Une chemise était dissimulée sur le sommier. Une chemise de femme, blanche, tachée de sang, comme ces chemises dont se couvraient jadis les condamnés avant d'être guillotinés. Une preuve de plus. Mais ce n'était pas de ce bout de tissu glissé sous le matelas que provenait l'odeur de putréfaction. Cette fois, Gauvin attrapa le pied de biche, décidé à agir. « Diane, commanda-t-il, tu prends le téléphone portable et tu composes le numéro de la gendarmerie de Douteville. Dès que j'ai ouvert cette armoire, tu les appelles et tu leur expliques tout. Ensuite, nous sortons d'ici, sans récupérer nos affaires, nous marchons vers la Sebring, en restant le plus naturel du monde, sans accélérer ni nous retourner. » Diane Perle acquiesça, serrant son téléphone portable d'une main tremblante. Gauvin osa un regard par la fenêtre.
« Où est-il ?
Je ne sais pas, je le vois plus. »
« Tant pis. »
Gauvin empoigna le pied de biche et, après une brève évaluation, décida de s'attaquer à la charnière du ventail de droite. À peine avait-il touché le gond supérieur
que la porte s'écroula sur le parquet. Puis l'instant suivant, la seconde porte s'effondra. Suivirent ensuite tous les tasseaux, les étagères, et après avoir longuement tangué, les planches de côté basculèrent elles aussi, libérant la corniche qui tomba de 2 mètres de haut dans un choc épouvantable. Les animaux de bois sculptés avaient roulé sur le parquet, papillons mutilés, agneaux à 2 pattes, serpents saucissonnés, hiboux décapités. Les pièces de la corniche s'étaient déboîtées, tout comme les panneaux d'un des vantaux. Une catastrophe. Un vacarme audible jusqu'à l'autre bout de la propriété. Le meurtrier avait forcément entendu. Sauf qu'il n'y avait pas de meurtrier. Pas plus de meurtrier que de cadavres. Dans le bas de l'armoire, sur un drap jauni, gisaient 2 rats et une couvée de 5 petits. Tous morts. Déjà en partie décomposés. Sans doute empoisonnés après avoir ingurgité de la mort aux rats déposée dans un coin du manoir. Une infection. Gauvin, toujours le pied de biche en main, explosa d'un rire nerveux, incapable de se contrôler. La voix beugla dans leur dos. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Lefèvre, sans attendre de réponse, s'était agenouillé au milieu des débris de l'armoire. Visiblement anéanti, il cherchait à rassembler les morceaux de bois éparpillés, les planches, les chevilles, les animaux, toutes les pièces d'un puzzle constituées avec patience pendant des siècles et qu'un fou, en une seconde, en un coup de vent ou de sang, aurait balayé. Il resta ainsi longtemps, statufié, puis se tourna enfin vers ses hôtes. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sous le choc, Diane Perle avait oublié la disparition de Madame Lefèvre, le chemisier ensanglanté, les mensonges de son mari. Seul comptait le sentiment de culpabilité, celui de l'enfant qui brise un vase pile au moment où les adultes poussent la porte d'entrée. « Il y avait une odeur, » avoua-t-elle penaude, en désignant les rats morts. « J'ai essayé d'ouvrir, » ajouta Gauvin. Il agita le pied de biche dans sa main droite. Lefèvre roulait des yeux plus étonné qu'énervé, comme si une telle stupidité dépassait l'entendement. « Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» bafouilla Lefèvre. « Chaque jour, je vous demandais si tout allait bien. » Sa voix était calme, comme si le désespoir était plus fort que la colère. Et puis, à quoi bon engueuler des abrutis ? Gauvin ne répondit rien. Diane Perle tenta une autre sortie. À vrai dire, ça va vous faire rire, nous ne vous avions rien dit parce que nous avions cru que... Gauvin toussa, haussa la voix et continua. Nous avions cru que vous étiez trop occupé, nous n'avons pas voulu vous déranger. Diane Perle bouda mais n'ajouta rien. Lefèvre se tourna à nouveau vers les ruines de l'armoire. Les explications des Parisiens semblaient si dérisoires à côté de l'ampleur du désastre. Je vous avais prévenu pourtant. Ce meuble est plus fragile qu'une étagère de verre. 300 ans qu'elle était dans la famille. Comment je vais pouvoir réparer ça? C'est foutu! C'est foutu! Diane Perle, malgré les yeux courroucés de son mari, avait attrapé la chemise en sang trouvée sous le matelas pour la fourrer sous le nez de Lefèvre. Après tout, il possédait des circonstances atténuantes. Elle avait même la ferme intention de contre-attaquer, d'insister sur chaque point du contrat négocié avec sa femme qui n'avait pas été respecté. Quand un bruit de moteur entrant dans la propriété leur fit tourner la tête. Une 106, blanche, avançait sur l'allée de gravier sous les peupliers. Madame Lefèvre en sortit, avec la même grâce sautillante que sur les photos dans la salle. Petite, boulotte, énergique. Le coup de grâce. Ça puait vraiment, murmura Diane Perle à peine audible. Gauvin n'avait même pas écouté. Il sortit simplement de sa poche son chéquier, il griffonna nerveusement et détacha le chèque d'un geste sec. Nous sommes vraiment désolés. Nous nous sommes comportés comme des cons, il n'y a pas d'autre mot. Tenez, je sais bien que ça ne comblera pas la valeur sentimentale de votre meuble, ni même sa valeur patrimoniale. Il observa encore le tas de planches gisantes. Mais c'est tout ce qu'on peut faire, à part encore nous excuser.
Lefèvre attrapa le bout de papier avec mépris. Sans s'en soucier, sans même regarder le montant, concentré sur les débris de bois. 5 minutes plus tard, Diane et Gauvin étaient partis, affaires tassées dans la valise, valise tassée dans le coffre. La honte. La honte de leur vie. Dès que la Chrysler Sebring eut disparu au bout de l'allée de peupliers, Madame Lefèvre se tourna vers son mari. Impatiente. « Alors, combien ?»« 4 000 euros !» explosa Lefèvre. Sa femme applaudit à deux mains. « 4 000 ! Joli ! On est loin de notre record, mais pour un couple de profs, j'aurais pas misé sur autant. » Elle observa les planches dispersées. « Et 4 000 euros pour une armoire normande pourrie, une chemise déchirée et une couvée de rat mort. Ça reste plutôt rentable. Tu vas pouvoir tout réparer ?»«
Ouais. Faut que ça tienne juste assez pour que tout s'effondre comme un château de cartes dès qu'on touche aux charnières, pas de souci. J'ai le temps, les prochains Parisiens n'arrivent que dans 3 jours. »
Madame Lefèvre lui jeta un regard suppliant. « Je pourrais jouer la tueuse ce coup-là. »«
Hors de question, » fit son mari en souriant. « Je suis beaucoup plus crédible que toi en serial killer qu'au choix. »«
S'il te plaît. » »« La boulangère dit que ça serait bien de changer. » »« Je me vois bien en sorcière du pays de Caux, à ramasser des herbes folles, à laisser du poison traîner, à marmonner avec un chat noir qui court dans mes jupes. »«
Ouais, on verra, on verra. »
La Chrysler Sebring, un peu avant d'arriver à Rouen, traversait doucement les bois de la vallée de l'Austreberth. Ni Gauvin, ni Diane Perle n'avaient prononcé un mot depuis leur départ. Le jour commençait à tomber. La forêt était dense, sombre, déserte. Diane Perle repéra un petit chemin qui s'enfonçait entre les arbres, un petit parking de terre dans l'ombre un peu plus loin. Elle posa une main sur le genou de son mari, remonta le long de sa cuisse alors qu'il rétrogradait pour aborder le virage au ralenti. Puis, de l'index, elle actionna le clignotant, tout en murmurant « Arrête, arrête-toi ».